nous ne retournâmes pas à Cox's Bazar. Les mois qui suivirent se perdirent pour moi dans un ressac monotone et terne. J'étais là sans y être. Les manuels d'ornithologie devinrent mes bréviaires, j'y cherchais encore des méthodes pour voler. Je retrouvai mon vieux vélo qui me donna la sensation que je pourrais y arriver. Quitter sur sa selle le quartier de Gulshan me parut une ambition juste. J'y parvins, mais arrivé au faubourg de Dhaka, il me sembla que j'atteignais la limite du monde. Je ne pus la franchir. Rouler à vélo n'était donc pas voler. L'été, j'eus 13 ans. Je détestais. Cet âge annonçait la couleur. Chute, hybridité, saloperie variée. Tirer la gueule avait son sous-titre immédiat. Elle a 13 ans. Contre le vide, je n'avais que les oiseaux. À défaut de savoir comment apprendre d'eux, je me mis à les contempler encore davantage. Ce qui m'apparaissait comme le néant était pour eux le plus fabuleux des terrains de jeu. Là où il n'y avait rien, ils s'élançaient. Qu'est-ce que voler sinon s'adonner à l'ivresse du vide? Il y avait là une information cruciale, je le sentais. Elle demeurait pour moi inexploitable. Quelque chose manquait. Je me retrouvais dans la peau du peintre occidental découvrant la peinture extrême-orientale. Sidéré par la révélation du vide et incapable de l'insérer dans son art, car ignorant le moyen d'évacuer la saturation. Il fallait tout recommencer de zéro. Je ne demandais que cela, sans pour autant savoir où situer le zéro. Je me cassais la tête avec cette question. Si profonde que fut mon absence, je n'avais pas pour autant abandonné le grec ancien. Au détour d'une version, j'appris qu'Hermès, le dieu messager aux pieds ailés, pouvait être qualifié de psychopompe. Le psychopompe était celui qui accompagnait les âmes des morts dans leur voyage. Ce nom formidable jouait également à l'adjectif. Ainsi, dans l'iconographie chrétienne, il y avait l'oiseau psychopompe qui permettait d'illustrer le Saint-Esprit, la fameuse colombe qui rendait la Vierge enceinte de Jésus. « Et si c'était moi ?» pensais-je. La Trinité proposait des emplois que j'avais examinés avec sérieux. Le Père, non, je n'étais pas taillée pour ce costume, par ailleurs magnifiquement porté par mon Père. Le Fils, j'avais envisagé ce rôle avec enthousiasme, mais ma découverte récente de la souffrance avait mis un terme brutal à cette ambition. Je ne voulais pas d'une carrière comportant une douleur à ce point absolue. Le Saint-Esprit ? Pourquoi pas ? Existait-il une raison d'exclure cette hypothèse ? D'autre part, qui mieux que moi convenait ? Pour ceux qui se frotteraient les yeux face à une telle mégalomanie, précisons que bébé, j'étais plus radicale. Je me voyais Dieu. Daigner n'être que le Saint-Esprit à 13 ans, cela prouvait une évolution lente mais sûre vers plus de modestie. Au passage, je salue mes parents qui n'ont jamais cru nécessaire de me signifier certaines limites. Ainsi, renoncer au rôle du père ou du fils sous prétexte du masculin ne m'a pas effleurée. De telles considérations n'existaient pas pour moi. Quant au Saint-Esprit, rien ne signale son sexe ni son âge, ni sa nationalité, ni son humanité. Il préférait être vu en oiseau. J'y travaillais. Psychopompe. Nul besoin de se réfléchir dans un mot pour l'adorer. Sans être pompeux, il avait de la pompe. Il fallait oublier sa signification pour jouir de son étrange consonance. Lorsque pour la première fois, je l'avais rencontré comme épithète d'Hermès, j'en avais conclu que le dieu était le pompier de l'âme. Fonction qui me paraissait si indispensable que je m'étonnais de son inexistence. La pompe initiale, celle qui a inspiré les pompes multiples et variées, c'est le cœur. Aurions-nous pu imaginer cette mécanique basée sur les lois du vide et du plein sans le va-et-vient constant des ventricules et des oreillettes? C'est un système de pompe qui fait circuler notre sang. Le français, langue de la plus haute ingratitude, a connoté ce verbe des pires ennuis. Tu me pompes l'air. Il a pompé Victor Hugo. Et cet adjectif, pompette, pour qualifier l'ivresse d'un jour. Il y a une confusion étymologique. Le mot néerlandais « pompe » a donné notre verbe « pomper » au sens mécanique quand la pompe honorifique vient du grec « pomper », la procession. « Psychopompe » tire sa deuxième partie de « pomparios », l'accompagnateur, de même origine que la pompe honorifique. Il n'est pas absurde de pressentir une racine identique à « pempo » et à « pomper », qui serait de l'ordre de l'élan. À 13 ans, je compris que cet élan seul pourrait me tirer de la stagnation, de la souffrance. Hélas, comment procéder? J'examinais la mythologie à la recherche d'une solution. Parmi les psychopompes célèbres, il y avait Orphée. Je l'aimais. Je voulus devenir Orphée. Pour cela, il me fallait une Eurydice. Juliette, tu serais Eurydice pour moi? Je ne suis pas morte, voyons. C'était exact. Je repensais à l'épisode des mains de la mère. La morte, c'était la mois d'avant. Quelques mois me séparaient de cette personne qui me paraissait infranchissable. J'étais le tombeau de cette morte. Pour la retrouver, traverser le fleuve des enfers me semblait moins difficile que pour Orphée ne pas regarder la défunte. Une telle tâche me dépassait. « Je n'y arriverai pas », me dis-je. L'instant d'après, j'eus honte de cette réponse. « Tu dois y arriver. » Tu ne connais pas l'itinéraire ni la méthode. Le dinosaure qui voulait voler, c'était pareil. Prends le temps qu'il faudra. Rejoindre la morte en moi. Comment procéder? Elle était à la fois si lointaine que je ne la voyais plus et si proche que je ne la voyais pas. On me surprit à regarder des photos de moi d'avant ce fatal printemps. Je sentais que j'avais changé. Je ne pouvais discerner en quoi. Comme cela ne me menait nulle part, je décidai de rejoindre la seule autre morte que j'avais rencontrée, ma grand-mère paternelle. Je l'avais tendrement aimée, mais l'avais trépassée quand j'avais 3 ans. Je tentai néanmoins de l'invoquer. C'était la première fois que je m'essayais à cet art que j'allais pratiquer par la suite, parler aux défunts. Fût-ce mon inexpérience, cela ne donna aucun résultat. Au Bangladesh, en 1980, la mort était omniprésente. Fallait-il que je sois cloche pour ne pas réussir à contacter la déesse locale? Peut-être faut-il que je meure tout simplement, pensais-je. Et j'examinais froidement la question. Il y avait un obstacle. Quelque chose en moi refusait. Je ne pus identifier ce blocage. Aujourd'hui, je sais qu'il s'agissait de l'instinct de survie. À l'époque, j'ignorais son existence. Le destin psychopompe ne supposait pas de mourir. Il fallait approcher la mort. Dans un terrain vague de Dhaka, j'avisai une scène frappante. Des vautours posés sur le sol attendaient. Je descendis de vélo et les rejoignis. Des charognards étaient postés autour du cadavre d'un chien. Leur chef arriva et préleva sa part qu'il alla déguster plus loin. Aussitôt, les oiseaux se jetèrent sur le corps et le nettoyèrent de sa viande et de ses organes en un temps record. Je contemplai le squelette du canidé. Combien de mois me faudrait-il pour dégager mes os? Était-ce vraiment l'objectif? Les dinosaures avaient mis plusieurs millions d'années à alléger leur squelette. J'eus l'intuition que j'avais l'âge idéal pour alléger le mien. Il suffisait de ne plus manger. Je cessai de m'alimenter. J'eus du mal. Les premières semaines, la faim m'obséda. Dans la bibliothèque parentale, il y avait un roman de Robert Merle intitulé « La mort est mon métier ». Ce titre me foudroya. Je le lus, et même si cela n'avait rien à voir avec mon propos, Cela me passionna. La faim s'éteignit au creux de mon ventre. Je le vécus comme une victoire. Au Bangladesh, ne pas manger faisait partie de l'ordinaire. Ce qui était plus rare, c'était de posséder de quoi manger et de ne pas y toucher. Chaque nuit dans mon lit, je constatais que mon squelette gagnait en visibilité. Je le sentais de mieux en mieux. Je lui parlais. « Tu es la morte ? » « Raconte-moi la mort. » Elle ne répondait pas. J'avais confiance. Un jour, je l'entendrai. Si étrange que cela puisse paraître, cette anorexie me sauva. Ces 2 années sans manger furent le recommencement de zéro dont j'avais un si profond besoin. Ma victoire sur la faim officialisa une autre personne en moi. 9 mois s'étaient écoulés entre le traumatisme et l'anorexie. Ces 9 mois furent une épreuve sans nom, pendant laquelle je ruminais ma dégradation à chaque seconde. En comparaison de ce tourment, cesser de m'alimenter n'avait été qu'anecdotique. Certes, ma santé s'en trouva gravement compromise. Pas d'omelette sans casser des œufs. Avant cette puberté violentée, j'avais été ovoïde. Les quelques photos de la maigreur extrême montrent un oisillon déplumé avec des gros yeux. La transition entre ces 2 états avait été atroce. Passé la métamorphose, la souffrance estompait. Je n'avais plus de quoi la ressentir, ni ressentir quelque autre émotion. Auparavant, quitter un pays pour un autre avait toujours été une blessure. Là, je remarquais à peine le déménagement du Bangladesh vers la Birmanie. 2 pays radicalement différents dont le seul point commun me parlait. On y mangeait très peu. Néanmoins, la faim était moins spectaculaire en Birmanie qu'au Bangladesh pour une raison simple. Le pays était beaucoup moins peuplé. « Pas d'hommes, pas de problème », disait Staline, qui savait de quoi il parlait. La mort disposait en Birmanie de moins d'individus à atteindre. Cela ne l'empêchait pas d'avoir du rendement, mais davantage pour des motifs politiques. Il m'est difficile d'en témoigner. J'étais à peine là. L'ennemi intérieur me narguait. Tu es devenu maigre comme une arête. Volé ? Tu en es moins capable que jamais. Ce n'est qu'une étape du processus, répondais-je flegmatique. J'avais conscience de la défaite. Je ne pourrais jamais passer au stade suivant puisque j'allais mourir. Afin de donner le change, je me mis à retraduire l'Iliade. Cet effort m'emplissait d'une ardeur qui m'étonnait moi-même. Tant qu'à crever, autant s'entourer d'un peu de panache. Mon corps était la carcasse d'un cheval de Troie. Il contenait bel et bien un ennemi dont je ne cessais de découvrir le pouvoir narquois. Quand je me regardais dans le miroir, il disait « Elle va bientôt mourir. » « Pourquoi me parles-tu à la 3e personne »« Es-tu sûre que c'est toi ?» Bonne question. C'était le reflet de quelqu'un que je voyais à peine et dont j'aurais été incapable de dire qui il était. Je me rappelle une pensée martelée à l'âge de 15 ans. Si qui que ce soit pouvait me garantir que je vais me sortir de ce piège, j'en pleurerais de bonheur. Sortir de ce piège consistait à vivre. J'examinais les chemins, tous étaient bouchés. Quand je ne traduisais pas Homère, je me postais devant la fenêtre et j'observais les oiseaux. Ils volaient trop loin pour que je puisse les identifier, à part les corneilles mantelées. Néanmoins, il m'arriva de reconnaître l'hirondelle fluviatile, que je considérais comme le témoin compatissant de ma chute. Aucun engoulevent oreillard, mais peut-être l'obscurité m'empêchait-elle de le voir. Je n'étais pas malheureuse. J'étais désespérée et angoissée, et je vivais cet état dans une forme d'exaltation. La Birmanie fut quittée pour le Laos, où il y avait encore moins de gens. Au train où allaient les choses, nous arriverions un jour au pays du néant. J'y étais déjà. Mon cheval de Troie inspirait la méfiance. On le regardait avec des points d'interrogation dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? J'aurais voulu répondre qu'il n'y avait rien. Ce n'était pas exact. Il demeurait une petite lueur qui brûlait sans combustible.